On va revenir sur ce qu'on a lu en partie ce matin pour aller plus loin. Je vous invite toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Et on va faire cette lecture à partir du verset 40. Luc 22, 40. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. On continue le récit au chapitre 23, et on arrive au moment de la crucifixion, au verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, lui présentant du vinaigre, il disait: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Voilà. Et ce matin, on a vu que lorsque le Seigneur a établi la Sainte-Cène, c'était autour d'un repas. Et il faut se mettre à table. Devant ce repas, cette invitation, il faut se mettre à table, ouvrir notre cœur pour que les choses apparaissent telles qu'elles sont. Mais de là, le Seigneur, lui, il est allé jusqu'à la croix. Et je voudrais que dans ces moments qui suivent, on puisse se rappeler, on puisse un petit peu plus prendre la mesure de la raison de sa venue. Il est venu vers nous, en pleine connaissance de cause. Pas mal de gens ne savent pas pourquoi ils sont là sur la terre. Pose la question. Alors on trouve des explications d'une manière ou d'une autre. C'est très bien quand l'explication vient des parents qui disent: Mais nous, on a désiré que tu viennes. Tu es l'enfant désiré, tu es l'enfant de l'amour. Alors ça, c'est extraordinaire quand on entend cela. Mais je ne sais pas si c'est en grande partie ou en majorité ce qu'on entend. Nous, nous sommes venus, nous, nous sommes là. Nous ne savons peut-être pas pourquoi, mais dans la réalité, nous y sommes. Mais lui, il est venu et il savait pourquoi. Il est venu nous chercher, nous sauver, parce que sans cela, nous n'étions pas sauvés, nous ne serions pas sauvés. À cause du péché, nous étions perdus. Il vient parce que Dieu voit, parce que Dieu entend, parce que Dieu sait les situations que nous vivons. Dieu voit nos vies telles qu'elles se déroulent, et surtout, il voit la destinée éternelle de notre existence. À cause du péché, c'est séparé de lui. Lorsque le temps viendra de quitter ce monde, cette dimension-là apparaîtra en premier, pour l'instant elle est un petit peu comme en second, un peu comme cachée, la dimension éternelle de notre vie, mais à ce jour-là, à ce moment-là, elle paraîtra en premier. Dieu voit sur le chemin sur lequel on est, et qui n'est pas celui de l'éternité avec lui, mais de l'éternité séparée de lui. Dieu entend les vies que nous menons, les situations que nous vivons, et je bénis Dieu parce qu'il a entendu la situation que nous vivions dans notre famille. Et il a permis que ce soit une voisine qui nous parle de lui. On a tout découvert de A jusqu'à Z, mais quand je fais un petit peu zoom arrière, quelques pas de recul, je me dis: Seigneur, tu as entendu nos vies, tu as entendu les situations dans lesquelles nous étions et pour lesquelles il n'y avait pas de solution, et tu sais et tu connais la situation que nous vivons, et tu es venu pour nous sauver, pour nous délivrer de cela. Et c'est toujours l'histoire de l'œuvre de Dieu pour nous. Quand le peuple était en Égypte, Dieu dira à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, je connais les souffrances de mon peuple que les Égyptiens lui font subir. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. C'était il y a des milliers d'années en arrière, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il vient parce qu'il y a des situations où si Dieu n'agit pas, rien ne change. Si vous ne venez pas dans cette situation, parce que vous êtes capable de le faire, rien ne changera. Alors je vais vous prendre l'exemple qui fait sourire, c'est le couac informatique. Si vous n'appelez pas celui qui sait sur quel bouton il faut appuyer, quelle manœuvre il faut faire, vous allez rester devant votre ordinateur un long moment, des jours et des heures. Et puis arrive quelqu'un, alors c'est ça qui est un petit peu déconcertant, c'est que si vous ne regardez pas bien attentivement, vous n'avez pas vu ce qu'il a fait. Mais ça marche. C'est déconcertant, c'est déroutant. Parce qu'il y en a un qui sait et qui peut, et les autres, ils sont devant, et ils essaient de le prendre par tous les chemins, et ils n'y arrivent pas. Alors c'est l'exemple qui fait sourire, parce que ce n'est pas vital. Hein. Quoique, des fois, quand on voit l'état dans lequel certains sont capables de se mettre devant un écran, on se dit, c'est peut-être plus sérieux que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens s'énerver devant un écran d'ordinateur. Parler à la machine. Et en général, quand on lui parle, ce n'est pas pour la bénir. Voilà. Et puis vous arrivez, parce qu'en dernier recours, on vous appelle, et malheur à vous savez comment régler le problème. Et comment tu as fait? Après, c'est vous qui prenez. Tu l'as fait trop vite, j'ai pas eu le temps de voir. Voilà, ben écoute, crée de nouveau la panne, et puis je te montrerai comment il faut faire. Voilà. Et puis pour finir en plaisantant là-dessus, des fois vous faites quelque chose, ça règle le problème, et même vous vous dites, je suis surpris, je ne sais pas ce que j'ai fait, et maintenant ça marche. Voilà. Alors on laisse l'histoire de côté avec cette partie un petit peu humoristique, mais dans nos vies, nous avons passé des années à tourner en rond, en cherchant des solutions dans tous les domaines, que ce soit dans notre âme, que ce soit dans notre santé, que ce soit dans les situations familiales que nous vivions, et rien ne se passait. Et puis nous avons entendu parler du Seigneur Jésus qui passait par là. Et nous nous sommes adressés à lui. Et là, nous n'avons pas compris. Parce que c'est allé vite. Mais quand il est là, tout va changer. Tout peut changer. C'est la grâce de Dieu. Il est venu pour cela. Le Seigneur est venu, il est au milieu de nous pour agir dans les vies. Pas simplement pour être spectateur de nos existences. Parce que je ne pense pas que nos existences soient si extraordinaires que ça, que Dieu n'ait rien d'autre à faire que de les regarder. Quoique, quand on se met à la place des parents, ils regardent leurs petits qui font des choses on ne peut plus banales, et les parents, ah, ils sont émerveillés. Vous avez vu ce qu'il a fait, mon petit? Voilà. Eh bien, Dieu, pour nous, d'une certaine manière, est comme ça. Il est le Père, et il aime nous regarder. Il y a des choses dans nos vies qu'il affecte, et pour celles-là, il veut intervenir. Il a d'abord envoyé sa parole. Il y a eu un préalable. Le Seigneur ne vient pas comme ça. Il a permis que nous entendions parler de lui. Il nous a donné sa parole. Alors nous l'avons prise dans un sens, dans l'autre, et puis au bout d'un moment, on a quand même réussi à trouver des passages où il nous parlait. Parce qu'il y a eu des passages où ça ne nous parlait pas du tout. Quand vous regardez certains passages, vous vous dites, mais ça c'est plutôt de l'histoire. Oui, mais dans cette histoire des hommes, il y a la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour eux, il le fait pour nous aujourd'hui. Et puis nous arrivons dans des passages qui nous bousculent, qui nous clouent au mur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ah, ça c'est pas n'importe quelle parole. Si vous aviez de la foi comme un grain de sève, alors vous diriez les choses se feraient. Et le Seigneur est venu pour intervenir dans nos vies, sans aucun favoritisme. Ça aussi, ça nous bouscule un petit peu. Mais en même temps, je me dis, mais Seigneur, il y a de l'espoir. Si tu as béni des gens pour lesquels, à l'époque, on parlait sur eux, eh bien, tu es en train de me montrer que tu bénis sans distinction de personne, sans favoritisme. Ça peut surprendre, mais en même temps, c'est une règle d'égalité. Devant Dieu, nous sommes tous logés à la même enseigne. Et surtout, le Seigneur veut intervenir dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est peut-être une dimension que nous n'avons pas encore vraiment saisi. pas simplement dans les grandes lignes, pas simplement pour la naissance, le mariage, la mort, où on vient vers Dieu, mais tous les jours de notre vie. Pour que le Seigneur nous aide, pour que le Seigneur nous dirige dans tous les domaines. Il vient, et non seulement c'est tous les jours, mais c'est ça qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il est capable d'être auprès de chacun en particulier. Et ça, c'est extraordinaire. Et il s'adapte. J'oserais dire que là, pour le coup, le Seigneur a une faculté d'adaptation phénoménale. Parce que nous, on va arriver à se faire à quelques-uns, mais se faire à tous, c'est assez compliqué. Parce qu'il y a de telles différences entre les uns et les autres. Et le Seigneur, lui, il est capable de se faire à tous. Il est capable de se faire à celui qui est docile, débonnaire, gentil. Il est capable de se faire au caractère le plus abrupt qui soit. Et il s'adapte à chacun. Parce que c'est sa volonté. Il a écrit « Je ne t'oublierai point ». Et il n'a pas fait une liste de personnes concernées. Il a dit « Je ne t'oublierai point ». Ça s'adresse à tout le monde. Il y a un homme qui est de l'autre côté du lac de Génézareth dans un tel état que si le Seigneur ne va pas vers lui, pour lui c'est fini, alors il va vers lui. C'est une dimension personnelle, individuelle dans laquelle le Seigneur est entré pour venir jusqu'à nous. Il entre dans notre maison comme il est rentré dans la maison de Zachée. Et c'est notre maison n'étant pas les murs, notre maison étant notre cœur, bien, il faut peut-être que nous en trouvions la porte pour lui permettre d'agir dans notre vie. Et là, il n'y a pas d'âge. Et on a vu des gens, des jeunes, très jeunes, ouvrir la porte de leur cœur et donner leur cœur au Seigneur. On a vu des personnes le faire à la veille de leur départ de ce monde. Finalement, l'amplitude, elle est grande. Mais le Seigneur est celui qui attend simplement que la porte s'entrouvre. Et dès que la porte va s'entrouvrir, alors ce sera un appel pour lui à rentrer, une invitation à venir, je me tiens à la porte et je frappe, à nous d'ouvrir pour qu'il rentre dans notre vie. Le Seigneur va rencontrer des hommes et des femmes dans tous les cas de figure qu'on puisse imaginer. Et à chacun, il y aura la grâce manifestée. À chacune de ces situations, il y aura l'intervention de Dieu. Quand bien même elle serait humainement déjà dans un stade dépassé. Lazare est dans le tombeau, le Seigneur intervient. La belle-mère de Pierre est atteinte de la fièvre, le Seigneur intervient. On lui amène cet homme paralysé, le Seigneur intervient. La foule est là depuis plusieurs jours, n'a rien à manger, le Seigneur intervient. Voilà. On lui pose des questions, il répond, il intervient. Et jusqu'au dernier moment, il va répondre, mais pas des réponses banales, hein. Des réponses qui changent l'existence. Jusque sur la croix, au dernier souffle, et comme on l'avait médité une fois, essayez de vous rappeler les conditions de crucifié. Après des heures sur la croix crucifié, précédées de la flagellation, précédées d'une nuit sans sommeil, etc., vous vous retrouvez accroché par les clous des mains, des poignets et des pieds, vous n'arrivez plus à vous relever pour libérer la cage thoracique. C'est pour cela que les paroles de Jésus sur la croix, il n'y en a pas beaucoup, mais les autres brigands crucifiés, il n'y en a pas beaucoup non plus, parce que c'est physiologique. On n'arrive plus à respirer, on n'arrive plus à parler. Et un crucifié meurt d'asphyxie. C'est terrible, un trou fait par un clou, mais ce n'est pas ça qui tue le crucifié. Ce qui tue le crucifié, c'est qu'il n'arrive plus à respirer. Et il va mourir asphyxié. C'est pour cela que les Romains avait amélioré le mode d'exécution et qu'il était réservé qu'aux personnes indignes. Voilà. Et dans ces derniers moments, le brigand fait une courte phrase, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus répond, « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est pas long, mais ils ne peuvent pas s'en dire plus l'un et l'autre. Mais ce n'est pas important de faire de longs discours avec le Seigneur. L'important, c'est de s'adresser à lui et de lui dire, comme on a dit ce matin, de mettre les choses sur la table, de mettre les choses à plat, et de lui dire, Seigneur, dans ma vie, eh bien, tu viens maintenant intervenir. Tu viens pardonner parce que je te demande pardon. Après, je demanderai pardon aux autres, mais d'abord, je te demande pardon à toi. Parce que, comme le fils prodigue à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et dans l'ordre des demandes de pardon, Ça ne peut et ça ne sera efficace que dans la mesure où on a pris conscience qu'on a d'abord offensé Dieu. Et quand on a pris conscience qu'on a offensé Dieu et qu'on a demandé pardon à Dieu, alors le Seigneur va nous aider à régler la situation au niveau inférieur, c'est-à-dire avec les autres. Avant d'aller jusqu'à la croix, c'est-à-dire avant de prendre cette décision qu'il avait prise, mais avant de mettre à exécution cette décision, cette volonté, cette œuvre pour laquelle il est venu, dans la nuit de Gethsémané, il s'est éloigné d'eux. Et c'est nécessaire, à un moment donné, de mettre un petit peu de distance entre tout le monde et nous. Il y a des décisions qu'il faut prendre seul. C'est extraordinaire quand une famille entière vient au Seigneur. Mais on sait très bien que la conversion sera la conversion de la famille parce que chacun va se convertir. Alors quand ils le font tous en même temps, il n'y a rien de mieux. C'est magnifique. Mais bien souvent, c'est un décalé. Et parfois, le décalage, c'est en année que ça se compte. Mais dans tous les cas, la décision, elle est individuelle. Le Seigneur nous appelle à prendre des décisions en mettant de la distance avec tous les autres. Voilà. Et ça, c'est nécessaire. Il s'est éloigné d'eux parce qu'il fallait qu'ils prennent cette décision seul devant le Père. Ça, c'est important. À la distance d'un jet de pierre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a mis une distance, mais une distance mesurée. Un jet de pierre, vous prenez une pierre, vous la jetez, vous voyez à peu près la distance que ça peut faire entre les gens et nous. Il doit y avoir une certaine distance entre les uns et les autres. Et il doit y avoir également une distance qui fait que maintenant je m'approche de Dieu. Je ne rejette pas les autres, mais je m'approche de Dieu. Je prends une décision et je m'avance. Et quand vous êtes à un jet de pierre de quelqu'un, vous ne l'avez pas abandonné, mais vous êtes devant. Vous vous êtes engagé, vous avez pris la décision qui convient. Et c'est important que ce que le Seigneur est venu faire pour nous, il est parti devant, il est allé jusqu'à la croix. Nous le fassions aussi à notre niveau. Ceux qui rentreront dans le ciel de gloire, ce sont ceux qui sont capables à un moment donné de s'éloigner des autres sans les rejeter, mais ils prennent leur décision et ils s'approchent du Seigneur pour ouvrir leur cœur, pour être devant la croix, se tenir devant la croix tout seul et regarder. Se tenir devant la croix et écouter. Se tenir devant la croix et ouvrir son cœur pour comprendre, pour recevoir le pardon, pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir l'amour que le Père a manifesté pour nous. À une distance, d'un jet de pierre, il se met à genoux. Et il y a des moments dans notre vie où il faut s'agenouiller. Pas devant les hommes, parce que le Seigneur ne nous demande pas de nous abaisser, de nous agenouiller devant les hommes, mais nous nous mettons à genoux devant Dieu. S'incliner devant Dieu. Il se met à genoux, et quand vous vous mettez à genoux, le corps est à genoux. Tout est à genoux. Quand vous êtes à genoux, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, parce que vous êtes dans une autre position. Les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, tout est dans une autre position. Il faut que ma position devant Dieu soit à genoux. Je me lève pour le louer, le célébrer, je lève mes mains pour l'adorer. Ensuite, dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, à genoux. Tout genou fléchira devant lui. C'est écrit. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à le faire de notre propre volonté. Parce que le jour où les choses s'arrêteront et le monde entier comparaîtra devant lui, alors les genoux fléchiront par la force, devant la majesté divine, devant la puissance de Dieu qui va se manifester et qui fera taire toutes les langues qui jusque-là presque s'élevaient avec arrogance. Dans la mesure où le diable sera jeté en prison, je crois que tous les hommes n'auront plus rien à dire. Parce que celui qui était peut-être le plus difficile à gérer, ce n'est pas les hommes, c'est le diable. Et le diable sera enchaîné, jeté en prison, à genoux, devant la puissance de Dieu, devant la majesté divine. Mais aujourd'hui, nous nous mettons à genoux parce que nous sommes confondus devant tel amour. Nous nous inclinons devant Dieu. Et ça, c'est bien parce que notre cœur doit s'incliner devant Dieu. Un cœur à genoux. combien de temps que notre cœur ne s'est pas incliné devant Dieu, comme il convient, le cœur à genoux, les pensées à genoux, devant Dieu. Tout doit dans ma vie prendre cette position-là. Et le Seigneur va dire que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et je ne vais pas être très long, on va finir tout à l'heure dans un temps de prière. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une réalité qui doit être réglée. Il y a opposition entre la volonté de Dieu et la mienne, même si je me tais. Ma volonté ne s'exprime pas toujours avec des mots. Il y a des personnes, elles ne disent rien, mais vous ne les ferez pas bouger. Elles ont décidé que c'est fini. Voilà. Alors on les appellera des testards, etc., etc. Mais ils ont une volonté, ils sont gentils comme tout. Ils sont agréables comme tout. Mais alors, c'est comme ça. La conversion, le salut de notre âme, c'est que le Seigneur est venu jusque-là. Il va jusqu'à donner sa vie sur la croix. Et lui a dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. Le brigand sur la croix l'a compris. Il va ouvrir sa bouche, il va ouvrir son cœur, il va s'incliner devant l'amour de Dieu manifesté. Et nous, nous qui ne sommes pas crucifiés, nous qui ne sommes pas en train de mourir à cause de nos crimes, lui il dit c'est justice, c'est ce qu'on méritait nos crimes, nous qui sommes dans une position tellement plus confortable, qu'est-ce qui empêche que nous nous inclinions devant Dieu et que nous déclarions que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne? Devant l'œuvre de la croix, il y a deux volontés qui se manifestent. Il y a deux volontés qui s'opposent. Il y a des paroles qui doivent être adressées et des réponses qui doivent être données. Devant l'œuvre de la croix, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Celle qui s'ouvre, c'est le ciel, c'est l'éternité. Celle qui se ferme, c'est l'enfer, c'est la perdition. Et tout cela, c'est devant la croix. C'est pour cela que devant la croix, ce n'est pas simplement un spectacle que l'on regarde en disant « Mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait, à moins que l'on rajoute « pour moi ». Et à cause de ce qu'il a fait pour moi, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et ma volonté maintenant, Seigneur, c'est de te suivre. Je veux te suivre. Ma volonté, c'est d'ouvrir mon cœur à ta grâce et à ton amour, afin que la vie de Dieu puisse se manifester. Sinon, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est ce qui s'est passé pour l'autre brigand, c'est que le Seigneur est venu jusqu'à lui, et plus près qu'à ce moment-là, je ne crois pas qu'il y avait, parce que je ne sais pas combien il y avait de distance entre les croix, mais quelques mètres, guère plus, le Seigneur est venu jusqu'à lui, et il ne bronche pas. Alors le Seigneur continue son chemin, et lui le sien. Seulement le Seigneur va vers le ciel de gloire, et lui vers la perdition éternelle. C'est tellement terrible de passer à côté de la bonne orientation, à côté du chemin du salut, à côté de la vie éternelle, et malheureusement, certains, un jour le Seigneur leur dira, mais tu es passé à côté. Alors nous, on regrette parfois d'être passé à côté de certaines choses. Non, je suis passé à côté. J'ai tourné pendant des heures et j'étais à côté. Et le Seigneur pourra dire malheureusement à certains, tu es passé à côté de l'éternité. Tu es passé à côté du salut. Tu es passé à côté de la grâce de Dieu. Tu es passé à côté de la destinée dans le paradis, dans le ciel de gloire. Tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Alors que par la grâce de Dieu, nous puissions ne pas passer à côté de ce que le Seigneur veut nous donner et veut faire dans nos vies. Ce matin, le thème, c'était plutôt se mettre à table. Cet après-midi, ce serait plutôt ne pas passer à côté. Que le Seigneur fasse ce soir. Amen.